Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités, donc Chloé Hermary d'Ada Tech School. Donc on va vérifier que Chloé est avec nous au téléphone. Bonjour Chloé.
Bonjour Fred.
Laïla Atmou de Ladies of Code Paris. Laïla, est-ce que tu es avec nous ?
Bonjour, oui, je suis avec vous.
Et Sonia Edouard-Douri, excusez-moi, de Django Girls Paris. Sonia, est-ce que tu es avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Bon, ben parfait alors. Alors, c'est évidemment pour les personnes qui ont l'habitude d'écouter l'émission, c'est pas la première fois qu'on aborde de ce sujet-là. Hein. Je vous renvoie à différents podcasts sur causecommune.fm, sur les femmes et l'informatique, sur l'apprentissage de la programmation pour les enfants, sur le développement du logiciel libre avec une développeuse, et sur l'émission consacrée à Ada ou la beauté des nombres, dont on va peut-être tout parler tout à l'heure. Mais c'est un sujet fondamental, donc on y revient évidemment, donc avec trois personnes. Et on va commencer, avant d'aborder le fond de la question, par une petite présentation personnelle de chacune de nos personnes, ce qui permettra aussi de voir un petit peu les voix. Écoutez, je propose qu'on commence par Chloé Hermary de Ada Tech School.
Oui. Donc, bonjour, moi c'est Chloé Hermary, j'ai 26 ans, je suis la CEO et fondatrice d'Ada Tech School. Ce que ça veut dire, c'est que je ne suis donc pas développeuse, moi je suis entrepreneur et j'ai créé une école d'informatique féministe en 2 ans qui vise du coup à former, à ouvrir à plus de diversité, notamment pour les femmes, les métiers de l'informatique.
Très bien. Alors, évidemment, on va rentrer dans le détail tout à l'heure de ce que c'est que cette école. Laïla Atmou, je te laisse te présenter.
Oui, donc je suis Laïla Atmou, j'ai 29 ans. Je suis développeuse web depuis maintenant quelques années. Et je fais partie des organisatrices de la communauté Ladies of Code Paris, qui est une communauté qui encourage les femmes à s'intéresser à une carrière technique dans l'informatique, que ce soit des métiers de développeuse, de data scientist, etc. Et surtout à s'y épanouir une fois qu'elles y sont.
D'accord. Et dernière invitée, donc Sonia Edouard-Douri de Django Girls Paris. Sonia.
Bonjour. Alors moi je suis, voilà, comme vous dites, Sonia Edouard-Douri. Je représente l'organisation qui s'appelle Django Girls Paris, qui est une organisation partout dans le monde, basée à Londres. Et moi, mon domaine, il est plutôt dans le business analysis. Ma carrière, c'est plutôt en tant que business analyst dans les télécoms à Londres. J'ai créé une start-up et je me suis retrouvée à faire ça. Et je serais ravie de vous en parler.
Bon, bah, écoutez, très bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir toutes les trois. Alors, je précise que pour les conditions techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas notre studio principal. Nous sommes chez nos voisines d'Antanac et nos invités sont par téléphone. Donc, on s'excuse pour la qualité qui n'est pas habituelle par rapport à la diffusion. Oh, Olivier Grieco me dit que ça va, le directeur d'antenne. Il a l'air content. Il n'a pas l'air chafouin, donc ça va, il est à côté de moi. Alors, on va commencer par en fait, une première question qu'on va aborder pendant quand même quelques minutes, qui est un petit peu le constat. Parce qu'en fait, pourquoi on fait ce genre d'émission et c'est pas la première, donc consacrée là précisément à l'apprentissage de la programmation pour les femmes, c'est, j'aurais envie de vous poser la question, c'est quels sont les problèmes, depuis quand ça existe, voilà, quel problème aujourd'hui concrètement, depuis quand, comment ça se manifeste, etc. Qui veut commencer ?
Bah alors si vous voulez, je peux commencer.
Alors c'est Chloé, c'est ça ?
Oui, exactement, ouais. C'est Chloé. et puis après, bah, je laisserai évidemment la parole à Sonia et Léla qui pourront en dire plus. Je pense qu'avant de commencer, avant de parler des problèmes, c'était de parler des conséquences et donc du coup du contexte en fait actuel. C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de femmes qui codent, il y a peu de femmes qui se forment à la programmation et il y a peu de femmes qui programme en entreprise, et en fait il y a aussi peu de femmes qui restent, donc c'est aussi d'où l'importance de communautés comme celle de Laïla et Sonia. Donc on estime à peu près entre 10 et 15% le nombre de femmes en formation d'informatique, et c'est à peu près un chiffre qu'on retrouve ensuite dans les entreprises. Donc on peut se dire que c'est un problème pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut être un fervent défenseur ou une fervente défenseuse de la justice sociale et de se dire que ça n'a aucun sens que des métiers qui influencent notre société, qui sont des métiers de pouvoir, à la fois financier, économique, etc., ne soient pas occupés par des femmes. Mais c'est aussi un problème qui est hyper pragmatiquement économique, parce que tout simplement, en fait, les entreprises cherchent des développeurs. Aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de développeurs, donc on a une pénurie de talents. Et dans ce contexte de pénurie, c'est quand même un petit peu dommage de se passer de 52% de la population mondiale. Voilà, en tout cas pour le contexte, puis après je peux laisser un petit peu la parole à Sonia et Leïla.
Oui, on va faire des échanges. Hein. Donc Leïla, est-ce que sur cette partie-là, est-ce que tu veux réagir ou apporter des compléments sur cette partie introductive?
Oui, oui. Bah après, je pense que en termes de chiffres, on est effectivement pas une population qui est très représentée dans les métiers techniques et encore plus dans les positions managériales. Mais et ça, c'est un problème que je constate. Enfin, déjà moi, mais à l'époque où j'étais en école d'ingénieur, en fait, il y avait déjà très peu de filles qui étaient présentes. Mais en plus de ça, elles avaient tendance à abandonner plus vite que les garçons. Donc, je me souviens de ma toute première année, on devait être une quarantaine, donc ce qui était quand même pas si mal sur une promo de 200 personnes. Et au final, l'année suivante, enfin, on s'est retrouvés à une dizaine de filles réparties sur les... Enfin, on était un peu les survivantes, quoi. Donc, il y a ce côté un peu où il y a vraiment un drop, que ce soit à l'université où en fait on a l'impression qu'on prend, enfin des échos que j'avais de ces personnes-là qui changeaient de cursus, c'est vraiment, j'ai l'impression de pas être à ma place, d'arriver dans un monde un peu de où justement il y a tous les clichés qui persistent un peu, le cliché de quand t'es développeur, développeuse, tu passes ta journée entière devant des écrans, tu ne fais qu'écrire du code, le cliché un peu où on est derrière nos ordi et un peu des geeks dans leur cave, quoi, qui persistent. Donc je pense qu'il y a ce problème là où en fait c'est un métier déjà qui est peut-être empreint de clichés. Et en plus de ça, il y a un drop côté en tout cas de ce que j'ai pu voir, hein, où il y avait des personnes qui ne se sentaient pas à leur place quand elles arrivaient à l'université.
Dans une filière technique, c'est ça?
Absolument, en école d'ingénieur en informatique. Après, ça, c'était un problème qu'il y avait, c'était en quelle année? C'était en 2010, donc ouais, fou là, ça commence à... ça fait 10 ans. Donc pour avoir gardé contact justement avec mes directeurs et directrices d'école, etc., c'est quelque chose qui est en train de changer progressivement. Je pense notamment à la directrice du département informatique de l'Université Paris-Descartes, Madame Dirani, qui fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce sens pour justement inciter les filles des promotions de l'IT informatique à rester. Et je suis quand même optimiste sur la suite, où je me dis qu'il y a de plus en plus d'initiatives et voilà, j'ai confiance tout simplement au fait qu'on va réussir à faire basculer cette ratio.
D'accord. Sonia, sur ta introduction, puis après j'aurais une question par rapport à votre première partie, notamment sur le fait d'abandonner. Donc Sonia, sur cette introduction, sur le problème ou le constat en tout cas.
Oui, alors je rejoins tout à fait l'avis de Chloé. C'est indiscutable qu'il n'y a pas assez de femmes représentées dans ce domaine. Mais au-delà de ça, ce que moi j'ai constaté, je ne suis pas de développeuse de métier. J'ai rencontré ça de l'autre côté en ayant travaillé dans des métiers adjacents, comme dans tout ce qui est analytique, et aussi en tant qu'entrepreneuse après. J'ai constaté ça, mais en soi, ce qui m'a beaucoup, on va dire, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est toutes ces initiatives de femmes autour pour créer en fait ces organisations comme Paris Jungle Girls ou Ladies of Code. En France, mais aussi dans d'autres pays, parce que ce phénomène, bien sûr, il n'est pas que français, il est partout. Et surtout, de ces dernières années où j'ai vécu 15 ans en Angleterre, c'est aussi le même problème, peut-être un peu moins dans ces pays que la France, parce qu'ils ont commencé ça au niveau éducation, ils ont vraiment changé leur curriculum d'éducation beaucoup plus tôt qu'en France. En tout cas, c'est ce que je constate. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a des initiatives vraiment pour que les femmes qui veulent puissent le faire par des organisations telles que celles qui sont là aujourd'hui. Donc ça, c'est le côté très positif du changement qui se passe par rapport à ça.
Alors, sur les initiatives, on va y venir dans une deuxième partie, évidemment. Je voulais rester pour l'instant sur la partie constat. Donc j'avais déjà une première question tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'est Chloé ou Leïla qui parlait que des filles qui ne se sentaient pas forcément à leur place. Et sur le salon web, il y a Marie-Odile qui pose la question, n'était-elle pas leur à leur place ou leur faisait-on sentir qu'elles n'étaient pas à leur place, qui n'est pas évidemment la même chose. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à la discussion sur causecommune.fm, bouton de chat. Donc, est-ce qu'on vous faisait sentir que vous n'étiez pas à votre place et de quelle façon?
Alors oui, c'était moi qui avais parlé de ça.
Donc Layla.
Layla, c'est ça. J'irais pas jusqu'à dire qu'on nous a fait sentir qu'on n'était pas à notre place. Après, je pourrais pas m'exprimer pour ces personnes-là, parce que moi, au final, j'ai persisté et je suis restée. Mais je trouvais qu'en tout cas, il y avait un petit côté où, à l'époque, il y avait ce côté, soit tu adores ce que tu fais, ce qui était mon cas, où moi, j'ai découvert la programmation quand j'étais gamine, donc je me voyais pas faire autre chose de ma vie, clairement. Ou alors, tu débarquais un peu dans le domaine et du coup, tu étais face soit à des gens qui étaient passionnés, pour qui c'était un feu en fait, et qui adoraient ça et qui se prenaient des murs en tapant leur première ligne de code, en voyant que ça marchait pas, mais qui réessayaient. Ou alors, il y avait des personnes en fait qui s'étaient orientées dans l'informatique parce que ça les intéressait, mais sans plus. Et voilà, je pense qu'il y avait plus un côté... en tout cas de ce que je comprenais de ces personnes-là, plus un côté où elles ne se sentaient pas à leur place parce que ça leur paraissait trop compliqué, en fait, pour... elles se faisaient avoir peut-être par les clichés de « il faut être bon en maths, il faut être fort en logique, etc. » Il y avait tout de suite un côté où, effectivement, les premières années en programmation, même quand on débute la programmation, c'est toujours un peu... un peu compliqué, c'est des nouveaux concepts, il faut s'accrocher quand même pour comprendre. Et donc, j'ai l'impression que c'était plus un sentiment où elles se sentaient pas à leur place, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait du harcèlement ou quoi, mais même s'il y avait des histoires aussi du harcèlement j'ai eu vent de certaines écoles, en fait, où il y avait du harcèlement sexuel il me semble que c'était chez 42, mais je veux pas dire de bêtises.
Ouais. Si je peux ajouter, parce que du coup, en fait, dans la création d'Ada, on a rencontré pas mal de développeuses, et ce qu'on observe, c'est un peu souvent des histoires. Donc, il y a l'histoire un peu similaire à Layla, qui sont aussi le fait que quand on est une grande minorité dans une formation, c'est vrai qu'on a tendance à se questionner. Enfin, on est un peu la minorité visible, donc on se pose la question de est-ce que je suis vraiment à ma place. Quand on est la grande minorité, on a aussi un peu le syndrome de représentation des autres. Donc, on se dit, si je suis nulle pour toutes les filles. Donc, c'est, on va dire, un fardeau qui peut être un peu lourd à porter, mais ça, c'est un fardeau qui est personnel. Et puis, je pense effectivement que de l'autre côté, il y a eu pas mal d'histoires dans 42, dans plein d'autres formations. Je sais qu'une Social Builder, qui est une association qui œuvre pour l'inclusion des femmes dans le numérique, avait sorti une statistique que 70% des femmes en école d'informatique avaient été victimes ou témoins d'actes sexistes ou de blagues sexistes, etc. Donc, c'est énorme, 7 femmes sur 10. Et ça, c'est lié également au fait, d'être dans une position de grande minorité, quoi. Parce qu'on est plus prompte à être victime de ce genre de choses. La culture peut dériver plus facilement, etc. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait d'être une minorité, on se sent comme un être à part. Et il y a de l'autre côté, les autres vous voient comme une minorité visible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut parfois, malheureusement, l'effet moutonnier sur lequel ça peut être hyper difficile, quoi.
Alors, justement, là-dessus, j'ai tout à l'heure...
aussi,
Vas-y.
Ouais, au niveau de justement la, et on a aussi une compétition parfois qui existe, notamment en école d'ingénieur. Enfin, je me souviens que sur les dernières années, et ça c'est un constat qui était partagé par pas mal de personnes aussi dans mon entourage, il y a souvent des stages en fait qu'on peut être amené à faire, et beaucoup d'étudiants disent parfois des boîtes type, des boîtes prestigieuses ou des expériences à l'étranger, etc. Et là, tout de suite, je me souviens de commentaires que j'ai eus, puisque j'avais eu l'occasion de faire mon stage à New York, du coup, de fin d'études. Et ça n'a pas loupé, effectivement, les directs. J'ai eu beaucoup de remarques où c'était « t'as été prise parce que t'es une fille ». Sachant que c'était des points, des postes où, évidemment, il y avait une trentaine d'étudiants qui postulaient parce que tout le monde avait envie de partir à l'étranger, quoi, à cette époque-là. Donc, il y avait aussi ce côté-là, compétition et... le fait d'être une minorité, parfois les autres pensent que c'est un atout, alors que ça peut parfois être un fardeau, comme disait Chloé.
D'accord, il y a Sonia, je crois, qui voulait réagir. Vas-y, Sonia.
Oui, je voulais juste rebondir à ça de manière générale. Personnellement, je n'ai pas vécu ces choses parce que je n'étais pas dans la programmation, mais Ayant vécu plus de 15 ans en Angleterre, en tout cas, ce que j'ai remarqué par rapport au monde éducationnel et comment les femmes étaient vues dans la technologie, ce que je constate ici en France, parce que je suis rentrée depuis peu, c'est que c'est vrai que on sent que c'est un domaine qui est très orienté vers les hommes, du fait qu'aussi que l'éducation, en fait, les filières sont aussi très étroites. On parle d'école d'ingénieurs, on parle essentiellement d'école d'ingénieurs. Je vois ça un peu comme un modèle assez, j'ai envie de dire, assez français dans le sens où j'ai envie de dire que si la façon dont on enseignait la programmation ou le code de manière générale était un peu plus large, il y aurait encore moins ces problèmes, j'ai envie de dire. Par exemple, en Angleterre, on peut apprendre de la programmation, on peut apprendre un code en passant par une école d'ingénieurs tout de suite dans les collèges. Eux, par exemple, après leur niveau troisième, ils peuvent déjà s'orienter dans ce qu'on appelle dans des collèges. Par exemple, on peut faire histoire et programmation, on peut faire sociologie et d'autres choses. Alors évidemment, on va pas être aussi spécialisé comme on peut l'être parfois dans les écoles d'ingénieurs, mais je pense aussi il y a aussi un profond débat aussi sur comment est-ce qu'on peut élargir déjà ça, mais voilà, je pense que ça vient aussi de ce côté-là. Les filières sont assez serrées, assez étroites, qui fait que c'est un peu élitiste et il y a moins de place pour d'autres personnes. Il faut voir aussi le côté notre monde de l'éducation, comment il offre aussi cette opportunité aux autres d'y venir d'autres façons.
Alors justement sur l'éducation, parce que là vous parlez, on va dire, des études supérieures, école d'ingé, etc. Mais j'ai envie de vous demander quelle est la situation avant. Et est-ce que le problème ne prend pas racine avant et finalement est assez pareil avec les sciences, où finalement on dit bah, les sciences, et tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du bac C qui est réservé pour, enfin le bac scientifique qui est réservé pour les garçons et les filles font le littéraire, etc. Donc est-ce que le problème n'est pas plus ancien que ça? Et est-ce que les évolutions récentes, notamment autour de l'apprentissage du code à l'école, les enseignements d'informatique, de spécialités d'informatique qui sont arrivés, vont pouvoir corriger cette problématique-là? Qui veut réagir là-dessus?
Alors, moi, je veux bien.
Leïla, vas-y.
C'est Chloé, pardon.
Ah, c'est Chloé, excuse-moi.
Oui, non, pas de problème. Non, mais bien sûr que si, que malheureusement, en fait, on parle des problèmes, et le problème, il est un petit peu plus insidieux et un peu plus systémique que ça. C'est en fait la société de genre, c'est ce vers quoi on éduque nos petites filles et nos petits garçons. Dès les premiers âges, on met des Lego, des jeux de construction dans les mains des garçons, et on va mettre des cuisinières et des caisses enregistreuses dans celles des filles, qui sont des jouets beaucoup plus fonctionnels. Au-delà de juste faire la cuisine, c'est des objets qui sont vraiment vers le soin à l'autre et des objets qui sont fonctionnels. Donc, on va avoir une façon d'éduquer nos enfants qui est différente en fonction de leur genre, qui va les amener du coup à développer une appétence sur une certaine façon de fonctionner, qui vont se convaincre qu'en fait ils sont bons surtout dans les relations humaines, dans la littérature, etc. Et puis du coup au moment de l'orientation, à la fois il va y avoir cette construction sociale qui joue, et puis il va y avoir aussi le regard de l'extérieur, parce que ça serait sacrément bizarre pour un garçon de bonne famille de dire qu'il veut être esthéticienne, et de l'autre côté d'une femme de milieu populaire de dire que finalement elle veut être ingénieure, quoi. C'est des choses qui vont être extrêmement conditionnées par d'où on vient et notre entourage. Vraiment, ça serait sacrément bizarre. Je parle de leur entourage, hein, comment ils vont vivre, etc. Donc ça, c'est pour moi une chose qui doit être effectivement résolue de manière systémique, et donc qui doit être résolue avec l'éducation. Et l'éducation, on parle ici de l'éducation nationale. Et effectivement, on insère aujourd'hui le code, il est fendu au niveau du collège et du lycée, ce qui, je pense, est une très bonne chose, parce que ça montre à la fois que coder, finalement, c'est un peu comme lire à écrire et à compter pour le 21e siècle. Après, il va falloir se poser la question de qui enseigne à coder, avec quel biais, parce que si c'est les mêmes que d'habitude qui disent qu'en fait, cette discipline, elle a été faite pour les petits garçons de leur classe, ils vont peut-être l'enseigner différemment, ils vont dire que les filles, bon, c'est un peu plus difficile pour vous. Donc, il va y avoir aussi, et je pense que c'est ça qui est hyper important, une formation des profs, qui forment à la programmation au collège et au lycée, pour pouvoir justement débiaiser ça, parce que c'est le problème de l'orientation est un problème de biais de genre qu'on a tous, et du coup qui amène les jeunes femmes à moins se tourner vers là. Et je pense effectivement, et ce que disait Sonia, c'est important de montrer que la programmation, c'est important de montrer que la programmation au lycée soit pas enseignée que par les profs de mathématiques, que on ne réentretienne pas ce traumatisme qu'on fait avec les mathématiques chez tout le monde, et que on montre que la programmation c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus créatif, beaucoup plus littéraire que cette vision peut-être un petit peu intimidante qu'on peut avoir en l'alliant systématiquement aux sciences et à la technique et aux maths.
Leïla et Sonia, est-ce que vous voulez réagir sur cette partie et après on passera justement peut-être aux solutions ou en tout cas aux, à vos initiatives sur cette partie donc de la problématique de l'école ou peut-être des parents ou autres. Sonia.
Je rejoins complètement Chloé sur ce qu'elle disait. Vraiment, moi pour y avoir fait une partie étudier ici en France quand j'étais jeune et puis avoir continué mes études en Angleterre, j'ai vraiment vu par exemple le grand changement et c'est vrai que c'est une très bonne chose déjà avec ce que j'ai cru comprendre avec le changement au niveau du bac cette année. Et je pense que l'idée d'un petit peu arrêter de limiter les gens à trois filières qui sont toutes les unes différentes des autres. Il faut plutôt recréer en fait un mode où les gens peuvent se retrouver dans des filières qu'ils veulent. Et s'ils veulent un peu de maths, qu'ils puissent s'utiliser un peu de maths. S'ils veulent un petit peu d'histoire, qu'ils puissent les combiner. Et au lieu d'avoir à choisir de manière très, on va dire, très différente l'une de l'autre. Donc ça, c'est déjà un débat déjà gagné, un pas déjà vers l'ouverture de l'éducation à autre chose, et je pense que la programmation va aller dans ce sens. Plus on ouvre l'éducation aux jeunes, et plus on va, je pense, avoir plus de profils divers.
D'accord. Leïla, sur cette partie-là, dernière intervention, puis après on va faire une pause musicale.
Je rejoins totalement ce qui a été dit. Après, j'ai peut-être une crainte quant à le temps que ça va prendre côté éducation nationale. Je crois qu'il y avait eu une discussion selon quoi il y allait avoir une agrègue d'informatique, où il y allait avoir un nouveau... parce qu'aujourd'hui, c'est enseigné, je crois, dans le cadre de la techno, mais que plus tard, ça allait être vraiment une matière à part. Donc, voilà, j'ai un peu des craintes sur voilà, le temps que ça va mettre à se faire, etc. Donc, peut-être y aller plus par petites étapes, en ayant peut-être des petits modules plus où des modules d'initiation peut-être à la programmation dans un premier temps et laisser plus les enfants apprendre par eux-mêmes. Je pense que l'informatique et même le développement, c'est vraiment un milieu où justement on peut être autodidacte, c'est une réalité, et au contraire c'est limite encouragé de justement jouer en fait avec les outils dont tu as à disposition. Et je pense que côté parental, je sais qu'il y a de nombreux parents qui sont un peu effrayés par rapport au temps d'écran que consomment leurs enfants. Moi, je dirais qu'il faut faire attention à ce qu'ils soient pas simples consommateurs en fait de réseaux sociaux, de vidéos. Enfin, je le vois sur des enfants de mon entourage, c'est effarant le temps qu'ils peuvent passer sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux de ce type. Mais un temps d'écran où vraiment il y a quelque chose qui est construit, où c'est un temps d'écran un peu plus stimulant, là je pense qu'il y a des choses à laisser faire en fait par les enfants en fait, et les laisser un peu guider cet apprentissage là quoi.
Bah écoute, on va en reparler après la pause musicale, et effectivement en plus en période actuelle de confinement c'est encore évidemment pire, mais on va en parler justement la partie fun, la partie créative de la programmation, de l'informatique en général. Mais là on va se faire une petite pause musicale, on va rester avec l'artiste donc Glacieré, on va écouter Floating on the Water, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune.
d'écouter Floating on the Water par Glacieré, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez référence sur le site de l'April, april.org, et sur le site causecommune.fm. La page de l'artiste sur Bandcamp, c'est Stevia Sphere, donc steviasphere.bandcamp.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons actuellement de l'apprentissage de la programmation pour les femmes avec nos invités Chloé Hermari de Ada Tech School, Leila Hartmouth de Ladies of Code Paris et Sonia Edouard-Doury de Django Girls Paris. Donc nous allons reprendre notre échange et on va parler un petit peu de vos initiatives, justement autour de l'apprentissage pour la programmation pour les femmes. Donc nous avons une école et puis deux initiatives un petit peu différentes. On va commencer donc par Chloé, Chloé Hermari de Ada Tech School. Alors tu avais commencé tout à l'heure à un petit peu expliquer que tu avais créé cette école. Mais alors pourquoi tu l'as créée et que fait cette école exactement?
Donc du coup, on mentionnait juste avant le problème, et notamment justement ce problème un petit peu insidieux. En fait, pourquoi s'il n'y a pas de femmes aujourd'hui dans l'informatique, c'est peut-être la façon dont on les éduque, la façon dont on les oriente, etc. Donc nous, notre réponse a été un petit peu claire, peut-être un peu claire. Je veux dire, moi, on va faire une école féministe. Féministe, ça ne veut pas dire que on exclut les hommes, ça ne veut pas dire que on manifeste tous les quatre matins, mais ça veut dire qu'on va apporter une réponse à ce problème qui est, on essaye la plus complète possible, la plus systémique, justement, on paraît. Donc nous, en fait, on s'est dit, la problématique pour qu'il y ait des femmes dans l'informatique, qu'elles y viennent, c'est qu'il faut réinventer le système de formation. Donc, on a créé une école où on a repensé le mode de recrutement, le mode pédagogique. Donc, Sonia en parlait. L'idée, c'était vraiment de présenter l'apprentissage de l'informatique beaucoup plus proche des langues vivantes. Parce que, en fait, quand on programme à plusieurs. On programme rarement pour soi dans son coin. Et puis, on programme pour des utilisateurs. Donc, en fait, la programmation, c'est un outil hyper humain, etc., etc. Donc, amener la programmation d'une autre manière, avec une pédagogie alternative. Donc nous, on s'inspire beaucoup des pédagogies Montessori, Freinet, etc. Dire en fait, une pédagogie qui valorise la confiance, la collaboration, l'autonomie et la créativité, que ce soit un petit peu plus amusant d'apprendre. Et puis ensuite, en dernier point, c'était avec notre école féministe de travailler avec des entreprises qui s'engagent aussi en ce sens. Donc nous, c'était notre réponse pour les et des entreprises et puis aussi des associations. Donc on travaille aussi avec les Ladies of Code, qui nous aident aussi à placer nos apprenantes. Donc Ada, c'est une école en 21 mois, 9 mois de formation et 12 mois en alternance, qui vise à former des développeurs et développeuses logicielles et qui a un positionnement féminin, des valeurs féminines, qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Et nous, aujourd'hui, on reçoit 70% de candidatures féminines et on a 70% de nos apprenants qui sont des apprenantes.
D'accord. Et vous avez donc, dans la promotion actuelle, vous avez combien de personnes?
Aujourd'hui, on a 30 apprenants en formation.
D'accord. Et donc, c'est donc un an de formation et ensuite un an en alternance, c'est ça?
Oui, exactement. C'est plutôt 9 mois la première année, mis bout à bout, mais c'est 9 mois la première année et 12 mois d'alternance.
D'accord. Et quand tu parlais donc de la pédagogie Montessori-Freinet, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cours formels comme on peut le connaître dans certaines écoles? Est-ce que c'est plutôt basé sur des ateliers, des échanges? Comment ça se passe un peu une journée d'une apprenante, par exemple, à Ada Tech School?
Ouais. Alors effectivement, nous, l'idée, c'était de casser ce côté hyper passif des cours, très descendant, où en fait, on écoute un prof, figure d'autorité, qui dicte un cours, etc., au tableau. L'idée, c'était d'avoir un engagement beaucoup plus actif de nos apprenants et de nos apprenantes. Donc en fait, nous, nos journées, le matin, on va aller sur des exercices ciblés sur une notion, parce que apprendre la process de la programmation nécessite l'entraînement sur des notions particulières. Donc nous, c'est ce qu'on appelle les plénières. Donc là, ça va être un moment plutôt collectif, on va être en mode programming, on va aller faire des recherches, etc. Et puis la journée, on va être en autonomie sur le projet. Donc un projet, ça dure 2 semaines. Et là, on est sur un petit groupe et on va avancer dans son projet. L'encadrant, donc nous, c'est pas des profs, on les appelle les encadrants. C'est plus en fait des coachs, des facilitateurs qui vont venir débloquer, qui vont passer de groupe en groupe sur les difficultés, les blocages ou venir challenger des groupes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'idée pour nous, c'était de casser aussi cette idée un petit peu dévalorisante et stressante de l'école, de courbe de progression industrialisée qui doit être la même pour tout le monde, qui provoque qu'en fait, les gens en retard, ils sont hyper stressés et cassés, et les gens en avance, ils se tournent les pouces en attendant les autres. En fait, on a découpé tous ces projets en trois niveaux, et qui permet du coup d'avoir un accompagnement des apprenants qui est beaucoup plus individualisé sur leur propre niveau, leur propre rythme de progression. Et j'ajouterais qu'il y a un dernier point, que notre système de validation de compétences, donc nous, il n'y a pas de notes, donc là je dis, il n'y a pas de prof, ce sont des encadrants, il n'y a pas de cours, ce sont des projets et des exercices, et il n'y a pas de notes, ce sont des badges de compétences qui sont d'ailleurs sur le standard BadgeOS, qui est un standard open source, et qui permet en fait à nos apprenants de venir valider leurs compétences selon des badges, selon ce qu'ils savent faire, et non pas avec des tests et des notes de 0 à 20.
D'accord. Alors sur le salon web de la radio, je rappelle aux auditeurs et auditrices qui peuvent nous rejoindre sur causecommune.fm, bouton de chat et salon libre à vous, Marie-Odile, qui pose une question sur la formation des encadrants. Quelle est la formation des encadrants et des encadrantes? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un diplôme à la fin? Chloé.
Alors donc nos encadrants et nos encadrantes, donc déjà nous on les sélectionne avec au moins 5 ans d'expérience en dev, donc c'est quand même des devs qui sont seniors. Ensuite, c'est des personnes qui ont aussi un an d'expérience pédagogique, que ce soit en coaching, en mentorat, etc., donc qui ont manifesté une appétence pour ça. Donc déjà, ça va être notre sélection et le filtre qui va être fait à l'entrée. Et ensuite, nous, on va les former avec des journées d'observation, des journées de co-encadrement, un certain nombre d'outils, de rituels qu'on a créés à l'intérieur, et donc du coup, qui leur permet d'avoir la posture de la bienveillance, de l'écoute. Nous, on aime dire que un encadrant ADA, il n'est pas là pour donner la réponse, il est là pour apprendre à la trouver. Donc, du coup, c'est un savant mélange de donner une réponse tout en posant des questions. Donc, c'est assez fin et particulier. Donc, c'est comme ça qu'on les forme. Donc, ça, c'est pour nos encadrants. Et du coup, sur le diplôme, effectivement, donc nous, on a un agrément qui permet de passer un titre reconnu par l'État. Qui est un titre équivalent licence et qui est le titre de concepteur et développeur d'application. Donc en fait, nos élèves, nos apprenants, quand ils sortent d'Adatech School, ils ont bien un diplôme reconnu par l'État.
D'accord. Alors évidemment, on va revenir sur Adatech School après. Donc le site web, c'est adatechschool.fr, tout attaché. Là, maintenant, on va parler un petit peu de Django Girls avec Sonia. Alors là, c'est pas une école, c'est quoi Django Girls? C'est une initiative, c'est un collectif?
On peut dire les deux. Alors, Django Girls, c'est une organisation internationale qui a été créée par deux femmes, Ola et Ola, qui sont polonaises et qui vivent à Londres. Elles étaient elles-mêmes des software engineers et c'était il y a 10 ans, elles avaient vu ce changement et ce manque de place pour les femmes pour rentrer dans la technologie. Et elles ont créé cette organisation qui, au départ, en fait, était une idée. C'était créer un atelier à Londres et donner l'opportunité à des femmes qui voudraient apprendre à coder. Alors, de cet atelier de 50 personnes à l'époque, est devenu aujourd'hui une organisation très structurée qui est dans plus de 90 pays, dans plus de 500 villes. Et en fait, l'idée, c'est que quand une personne a l'énergie et l'envie d'organiser l'atelier, eh bien, elle fait la demande à Django Girls, qui est cette organisation, et bien après elle devient l'ambassadeur. Et pour ma part, je suis donc la personne qui s'occupe de Django Girls Paris. Et l'idée, c'est de créer des ateliers avec l'idée que c'est gratuit pour toute femme ou personne qui sont être une femme, qui se sent comme femme. Et l'idée, c'est d'avoir des sponsors pour en faire un atelier assez grand et d'avoir tous les moyens. Et généralement, ça se passe sur 2 jours complets. Et ce qui est bien avec cet atelier et cette organisation, c'est que n'importe qui peut le faire. Dans le sens où il suffit d'aller sur cette organisation, on demander l'application pour être l'organisateur dans la ville où on veut. Et il y a un tutoriel qui est prêt, qui est fait dans différentes langues. Et en fait, l'atelier peut se faire en peut être organisé vraiment de manière très rapide. Et pour notre expérience, le dernier était à Paris, c'était le 8 et le 9 mai, durant le confinement. Nous avions 50 femmes et 12 coachs. Alors c'était un atelier vraiment spécial, parce que c'était pendant le confinement. On n'était pas sûr comment ça allait être organisé. mais nous avions créé quelque chose de magique parce que ça a donné une perspective encore plus différente que ce que ça allait être. Parce que nous avons donné le choix aux gens qui n'auraient pas pu être là, d'être là. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout, de personnes du sud de la France, une personne qui n'aurait pas pu joindre cet atelier. Et donc, ce profil de femme, je peux vous donner une idée un peu de la catégorie sociale de cette personne désireuse, souvent de ce genre d'initiative. Ce sont des femmes généralement entre 30 et 39 ans. Nous avions des femmes plus jeunes et d'autres plus âgées. Et c'est un peu la catégorie sociale, car souvent ce sont des femmes qui sont souvent qui ont des métiers de tous les jours, par exemple sage-femme ou journaliste ou quelqu'un entre deux professions. Et souvent c'est des gens qui veulent changer de travail ou qui sentent le besoin dans leur situation professionnelle de s'adapter à une nouvelle technologie et qui souvent par manque de temps ou par le moyen de trouver une structure qui puisse les emmener vers là. Alors souvent, la première chose, c'est comme un atelier Jungle Girls. Alors il y en a d'autres, comme Ladies of Code de Leila et d'autres, comme celle de Chloé. Et la nôtre, c'est dans l'idée qu'en deux jours, que vous soyez très débutant ou assez avancé, on peut vous mettre dans différents groupes. Et puis, sur deux jours, vous avez des coachs qui sont de métiers de tous les jours, des CTO, des gens vraiment très seniors dans leur vie de tous les jours et qui ont envie de partager leurs connaissances et de donner le meilleur d'eux-mêmes sur deux jours de manière bénévole et à cette communauté. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant deux jours. Et pour moi, c'était la première fois. Et je dois dire que vraiment, j'ai découvert une communauté fantastique parce que moi, je ne suis pas, comme je disais, je ne suis pas de développeuse, mais j'avais envie d'apprendre un peu plus sur le Python. Et c'est comme ça que je suis rentrée, en fait, parce qu'il y avait personne qui organisait à ce moment-là le Jungle Girls de Paris. Alors, on m'a demandé, j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, c'est une organisation vraiment qui est superbe, qui aujourd'hui organise encore des ateliers partout dans le monde, malgré le Covid-19 et la situation. Mais tout se fait aujourd'hui en distanciel.
D'accord.
Donc, vous allez sur... voilà.
Alors, le site, c'est djangogirls.org. On reviendra dessus. J'ai juste précisé pour les gens, tu as cité un mot Python, donc un langage de programmation. Et Django, c'est, on va dire que c'est un framework, c'est un ensemble de composants qui aident à développer plus facilement des sites web, notamment avec Python. Et Python est réputé pour être un langage facile à apprendre. Et effectivement, tu as cité le tutoriel qui est en ligne. Je précise aussi qu'il est disponible sous licence libre. Je l'ai été le voir effectivement dans plein de langues. Donc ça permet effectivement de s'approprier très rapidement ce langage. Mais on va revenir évidemment sur cette initiative. On va finir le tour de table des initiatives donc avec Leila et la partie donc Ladies of Code Paris. Alors même question, qu'est-ce que Ladies of Code Paris ?
Ladies of Code Paris, c'est une initiative en fait qui vise en fait à, comme je disais plus tôt, à encourager les femmes à s'orienter vers une carrière technique et à y rester. Donc on est une communauté qui est assez diverse dans la mesure où initialement il y avait beaucoup de développeuses seniors dans différentes technologies, donc soit des développeuses PHP, JavaScript, enfin il y avait quand même une belle représentativité des technos. Mais là, avec les derniers meetups qu'on a pu organiser, on a eu de plus en plus de personnes qui sont en reconversion, qui rejoignent la communauté justement pour avoir des conseils sur leur progression, ou même des personnes qui sont intéressées par une reconversion et qui demandent des conseils sur justement quelle formation choisir aujourd'hui dans un écosystème où on retrouve énormément d'organismes qui forment au métier de développeuse. Donc voilà, cette mission, c'est vraiment d'accompagner toutes les personnes qui nous rejoignent en fait et les aider du mieux qu'on peut pour s'épanouir dans leur carrière de développeuse.
Et donc concrètement, vous organisez quoi ? Vous organisez des formations, des rencontres ?
Alors, il y a eu un avant-après confinement, je ne vais pas le cacher. Avant le confinement, c'était beaucoup de rencontres du coup à Paris, essentiellement, parce qu'on a un groupe qui est basé à Paris. Et donc, on a organisé déjà des apéros juste un peu complètement informels, où en fait, l'idée, c'était juste de se rencontrer, d'échanger sur nos quotidiens et les éventuelles questions que certaines pouvaient avoir sur le métier de développeuse. On a organisé aussi des meet-ups un peu plus techniques où là, c'était des personnes de la communauté qui parlaient d'un sujet en fait qui les tenait à cœur. Donc, on a eu des conférences sur le design system, la mise en place de design system, la mise en place de tests automatisés pour mieux tester son code, de comment mettre en place des tests qui se jouent tout seuls, en gros. On a organisé aussi des workshops sur des technos en particulier, donc notamment une intro au langage Go. Donc ça va vraiment dépendre en fait des envies qu'il y a au sein de la communauté, puisque c'est pas nous organisatrices qui allons organiser tous les meetups, enfin qui allons être speakers sur tous les événements qu'on organise. On va surtout solliciter la communauté, savoir est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont envie de parler d'un sujet et qui vont le partager du coup à l'audience.
D'accord.
Donc, ça, c'était avant le confinement. Oui. Et là, depuis le confinement, du coup, on a arrêté les apéros, évidemment. Par contre, on a continué les meet-up techniques où on les diffuse, enfin, on fait un live, en fait, sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est même pratique pour certaines parce que du coup, celles qui ne peuvent pas venir à l'événement peuvent le regarder plus tard quand elles sont dispo, vu que c'est enregistré sur YouTube.
D'accord. Voilà. Et j'ai vu sur votre site que vous alliez aussi, vous proposiez d'aller voir les élèves en collège et lycée pour parler du métier de la programmation.
Alors absolument, ça c'est quelque chose une activité pré-confinement qu'on aimerait beaucoup relancer. C'est on va effectivement voir après, on a un tout petit réseau là pour l'instant de lycée seulement, mais notre ambition ce serait d'aller voir possible des collèges dans un futur plus ou moins proche. Mais l'idée, oui, c'est qu'on va intervenir dans des classes pour parler du métier de développeur, raconter nos parcours. Donc là, la dernière fois qu'on l'a fait, il y avait donc moi qui ai un parcours très classique où j'ai tout de suite su ce que je voulais faire. Il y a une autre personne qui a fait une reconversion. Donc, où, pour le coup, c'est intéressant d'avoir une diversité de l'histoire, c'est que justement ça montre aux élèves que on n'est pas obligé de se décider là à 17 ans tout de suite, ok, ton futur ce sera ça, et de les faire signer pour une formation à jamais. Enfin, c'est vraiment montrer que c'est un métier qui peut être atteint en fait via différents chemins. On n'est pas obligé d'aller vers la voie classique de l'école d'ingé, on peut très bien faire une autre école. L'essentiel est d'aimer ça, en fait, tout simplement.
Non, justement, donc,
c'est souvent des échanges très, très intéressants avec les élèves.
Alors justement, on va parler de ça. Je vais juste citer le site web donc de Ladies of Code Paris. C'est ladiesofcodeparis.netlify.app, c'est bien ça?
Absolument, c'est ça.
Et bien sûr, on mettra toutes les références sur april.org et sur causecommune.fm. Donc là, on a fait une présentation de vos structures. En fait, j'aimerais bien vous faire réagir sur quelques termes que vous avez employés tout à l'heure, parce que qui me paraît important dans la programmation. C'est le terme de créativité, l'importance de l'erreur et de l'échec dans la progression, le fait qu'on peut travailler chez soi. Tout à l'heure, c'était, je crois, Leïla qui parlait effectivement du temps passé sur écran pour faire des choses qui ne sont pas forcément utiles alors qu'on peut le faire. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ou essayer de faire comprendre la spécificité de la programmation par rapport justement à l'échec, par rapport à la créativité, par rapport au fait de travailler tout seul? Parce que ça me paraît essentiel par rapport à ce que vous dites. Peut-être Chloé?
Oui. Alors du coup, effectivement, c'est trois choses sur lesquelles il faut insister. Moi, la première qui me tient énormément à cœur, c'est le droit à l'échec. Parce que je pense que c'est vrai dans la programmation, c'est vrai dans l'apprentissage. C'est d'ailleurs très, très, très peu porté par le système traditionnel français, malheureusement. Et ensuite, l'orientation, parce que toute sa vie, finalement, on fait du test and learn sur son orientation. Donc ça, c'est vraiment, je souligne ça, parce que c'est un point qui me tient énormément à cœur. C'est le droit à l'erreur, même pas l'échec, on devrait dire le droit à l'erreur, parce qu'on apprend énormément ça. Donc effectivement, la programmation, il faut savoir que sa première ligne de code, on a de très, très, très grandes chances quand même qu'elle ne soit pas bonne, d'avoir des erreurs, etc. Et donc, quand on code, on va avoir beaucoup avant de sortir un programme correct qui fera un bon résultat, écrit correctement, etc. Il va y avoir beaucoup d'erreurs qui vont être faites jusque-là, et c'est pas grave. Il faut continuer à avancer. Donc, c'est vraiment une discipline qui valorise le test and learn. Et du coup, moi, c'est ce que je trouve très intéressant, parce que je trouve que c'est très bonne pratique qui apprend pour la vie, au sens large du coup dont je parlais. Ça nécessite de la créativité, parce que en fait, un programme, finalement, c'est la solution machine, la solution informatique à un problème de la vie réelle qui est rencontré par des utilisateurs, des utilisatrices. Et donc, en fait, on résout un problème quand on programme. Et donc, du coup, bah, ça va nécessiter une créativité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir se triturer le cerveau pour trouver une solution. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que notre solution, elle va être très personnelle. On va pouvoir, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, en fait. Donc, du coup, différentes personnes vont pouvoir trouver une solution différente. Et c'est ça aussi qui est très créatif dans la programmation. C'est qu'on a le droit d'avoir un style, on a le droit d'avoir une interprétation du problème et on a le droit de le résoudre à sa manière. Et ensuite, on parlait de la dimension sociale, de la programmation sociable. En fait, les métiers de développeurs, je ne suis pas développeuse, donc je laisserai peut-être Leïla reprendre après. C'est des métiers qui sont collectifs. C'est très rare dans la vie d'une entreprise d'avoir un seul développeur ou une seule développeuse. On code à plusieurs. Son code, c'est de la matière. Moi, j'aime dire que c'est une matière organique qui passe de main en main. Donc, on doit penser aux autres, à sa réutilisabilité, on pourrait dire, à la dette technique, à bien le documenter, etc. Donc, on va rarement coder seul dans son coin. Pour soi, on va coder pour d'autres personnes. Donc, pour nous, c'est aussi un outil qui est vraiment social, en fait, la programmation.
D'accord. Je précise juste qu'il nous reste que quelques minutes, 3-4 minutes. Donc, Leïla, est-ce que tu veux compléter sur cette partie-là?
Oui, absolument. Là, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Chloé. Le droit à l'erreur, c'est la base, je pense, dans la programmation. Et justement, je constate beaucoup dans les workshops que j'ai pu faire, en fait, il y a une vraie peur des apprenants parfois à justement taper une ligne de code parfois ou « mais qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ?» Et j'ai tendance à dire « c'est pas grave, ton ordinateur ne va pas s'enflammer, tout va bien, ça va bien se passer. » Et au contraire, c'est une manière de voir que ça ne marche pas, en fait. Donc, tu n'échoues jamais, en fait, tu vois juste, ok, ça ne marche pas, c'est un constat. Et je te rejoins totalement aussi sur la notion d'activité sociale. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point qu'on n'a pas assez mentionné justement dans les formations plus classiques, c'est le fait d'écrire du code pour les autres, parce que au final, le code, c'est faire du code qui est interprétable par la machine, c'est facile, mais par d'autres êtres humains, c'est un peu plus complexe. Donc, clairement, je te rejoins partout là-dessus. Et sur la créativité, il y a vraiment un côté amusement où, en fait, la programmation, c'est se donner libre cours à son imagination aussi un peu. Et il y a possibilité de vraiment faire des choses chouettes, que ce soit pour des enfants, des adultes. Il y a moyen de s'amuser à tout âge.
Sonia, est-ce que tu veux réagir sur ce point avant que je passe à la dernière question collective?
Juste vraiment de manière rapide, je pense que tout normalement, on apprend par les erreurs et que l'échec, que ce soit à travers jour à jour le code ou même dans sa carrière, changer, c'est une manière de se redéfinir et d'être plus fort par rapport à ce qu'on fait de manière générale.
D'accord, super. Alors, je suis désolé, mais le temps file et nos invités suivants viennent de s'installer dans le studio tout à fait discrètement. Je pense que vous ne les avez peut-être pas entendus. Donc, en tour de table final, j'aurais envie de vous demander un petit peu si vous avez soit des conseils de lecture, de podcast à conseiller, ou si vous avez une actualité particulière ou des besoins. Allez, vous avez chacune une minute pour ce tour de table final. On va commencer par Chloé Hermari.
Alors moi j'ai deux lectures à conseiller, qui est une lecture qui est d'abord d'Isabelle Collet sur le domaine, qui s'appelle Les oubliés du numérique, qui est vraiment un livre hyper accessible, engagé, drôle, etc. et facile à lire sur sa féministe et à la fois la place des femmes dans l'informatique. Ensuite, il y a un autre livre qui est un livre de Bell Hooks qui s'appelle Tout le monde peut être féministe. Et je trouve que ça casse un petit peu ce mot qui fait peur et qui effraie, et elle l'explique très bien de manière positive, mixte, etc. En quoi en fait c'est le féminisme, voilà. Et ça c'est pour un petit peu les lectures confinement que je recommande aux gens. Et sinon nous notre actualité c'est qu'on a on fait 3 rentrées par an. On vient de passer une rentrée en octobre. Il y a également une rentrée en janvier et en mai. Donc si des auditeurs ou auditrices sont ou connaissent des personnes qui cherchent à se former en informatique dans un cadre accueillant, bienveillant et accessible. Voilà, envoyez-les-nous à datecool.fr. Les candidatures sont ouvertes. Il n'y a pas de prérequis technique. On recrute des personnes pour leur projet, pour leur motivation, pour leur persévérance, pour tout plein d'autres compétences, mais pas le fait d'être déjà un geek ou une geekette de la première heure. C'est ouvert à tout le monde.
Bah écoute, merci Chloé. Donc, Leïla Hatmou, une minute de conclusion.
Rien de... Enfin, j'ai une recommandation à faire. C'est un podcast, si jamais vous êtes intéressé par le domaine du développement, après, c'est un podcast anglophone qui s'appelle Ladybug Podcast, où c'est trois développeuses, en fait, qui vont aborder différents sujets liés à la programmation. Après, en podcast francophone, j'ai aussi Artisan Développeur, que j'écoute beaucoup, qui va interviewer en fait différentes personnes justement toujours autour du métier de développement et même discuter de pratiques en fait de qui peut mettre en place dans sa vie professionnelle à lui, notamment sur sa déconnexion qu'il a tenté une déconnexion pendant 10 jours en fait de ses téléphones, etc. Donc vraiment c'est un podcast très intéressant si vous êtes intéressé par justement le domaine du développement, c'est chouette à écouter. Et en termes de notre actualité, on continue malgré le confinement à organiser des événements, donc vous pouvez suivre nous suivre en fait via notre site web sur nos prochains événements et on lance notamment notre réseau de mentoring où l'objectif est de pairer en fait des développeuses entre elles pour s'entraider sur des problématiques. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le concept, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Notre adresse est sur notre site web.
Écoute, merci Léa. Tu m'enverras les références pour les podcasts. On les rajoutera sur le site de la radio.
Et ouais, avec plaisir.
Voilà. Et puis, parce que je ne les connais pas. Donc, en plus, j'aurai des nouveaux podcasts à écouter. Sonia Edouard-Harry de Django Girls Paris. Oui. C'est à toi.
Alors, en soi, rien de particulier. Je pense que il y a beaucoup de choses... déjà, plutôt par rapport à mon expérience, j'ai découvert récemment un workshop qui s'appelle Humble Data Workshop sur les gens qui sont intéressés pour tout ce qui est data science. Ils font beaucoup de workshops pour les gens qui sont intéressés et je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui cherche dans ce domaine. Et puis, bien évidemment, Django Girls Paris, mais aussi d'autres ville en France, si vous voulez en savoir plus, sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un avait posé la question sur le forum, la manière dont on le fait, c'est par distance, en utilisant diverses formes de moyens, alors ce qui est possible, la dernière fois c'était en utilisant Discord, Zoom, ce qui est pratique pour tout le monde pour l'utiliser, et ça se fait aussi bien que si c'était, on va dire, en présentiel, donc ça c'était... C'est ce qui se fait. On continue de le faire comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était mon mot.
Bah écoutez, en tout cas, merci. Je vous avais les félicitations de Marie-Odile qui dit merci à ces trois femmes, on peut dire brillantes. Et je confirme. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. N'hésitez pas si vous avez des actualités ou si à un moment vous voulez parler d'autres choses dans la radio, vous êtes les bienvenus. Donc c'était Chloé Hermari de Ada Tech School, Leïla Hatmoud de Ladies of Code Paris et Sonia Edouard-Harry de Django Girls Paris. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes les trois et à bientôt.
Belle journée. Merci.
Au revoir.
Merci.